Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Je suis un ballot. Je suis un ballot. Deux agents et un civil sont venus chez moi, 27 rue des Pommiers, Le Mans, Sarthe. C'était un jeudi 16 juillet 1942. Nous avons ordre de vous emmener, vous irez travailler. Ne me prenez pas mon mari, implorait ma femme. Que vais-je devenir sans lui ? À 100 mètres de la maison, pris de remords, ils m'ont dit « Attendez ici, nous irons en chercher d'autres et nous reviendrons vous prendre. » Oui, je suis un ballot, car je les ai attendus, respectueux de la loi. Quel malheur ce fut pour moi, j'ai été déporté 35 mois. Comment ai-je pu résister si longtemps ? C'est incroyable, c'est un miracle. J'ai même travaillé Sonderkommando, le commando des chambres à gaz. Regardez-moi, les Français. Vous avez devant vous un juif qui a été en enfer et qui en est revenu. C'est la France d'alors, le gouvernement de Vichy, qui m'a envoyé en enfer. J'ai été évacué d'Auschwitz à Buchenwald, à Ohrdruf et à Bergen-Belsen, où j'ai été libéré en avril 1945 par les Anglais. Le plus beau jour de ma vie. Le jour où j'ai remis les pieds sur la terre de France. Pris d'un tressaillement, je me suis agenouillé pour embrasser la terre. Bonjour Jacques Benroubi.
Bonjour.
Je viens de lire le tout début du livre qui a été publié à votre initiative en 2013, Le Petit Arbre de Birkenau, aux éditions Albin Michel, qui contient le témoignage de votre père, Maurice Benroubi, né en 1912 à Salonique et mort à Paris en 1998. Il contient aussi le journal que votre mère, Rose, a tenu pendant les 3 ans de la déportation de votre père. Et après ces témoignages, vient la lecture historique, c'est Annette Viviorca qui s'en est chargée. Dans une postface très éclairante, elle rappelle les faits et elle commente une documentation exceptionnelle qui provient des archives départementales de la Sarthe et qui est en quelque sorte la version administrative de l'histoire vécue par vos parents. Alors, Jacques Benroubi, commençons d'abord par votre père. Maurice, dans quelles circonstances a-t-il été déporté ?
Comme il commence, ça a été... au cours de la rafle du 16 juillet 42 au Mans, qu'il a été arrêté, bien que les Juifs grecs ne devaient pas être inquiétés. Mais je crois qu'il est probable, parce qu'il avait un dossier administratif avec dont les documents témoignent, il avait été inquiété parce qu'il continuait son commerce interdit aux Juifs suite au décret du 2 juin 1942. Donc, il essayait de survivre et continuait de travailler pour pouvoir manger tous les jours.
Il était marchand forain,
c'est ça ? Il était marchand forain.
D'accord. Et donc, il a fait partie du 8e convoi ?
Oui, du convoi 8, qui arrive à Auschwitz et dont la totalité des déportés sont rentrés au camp, sans sélection pour les chambres à gaz. Au bout de 15 jours, il ne restait que 75 survivants.
Annette Viviorca explique que, grâce aux travaux de Serge Klarsfeld, on sait que ce convoi a été le seul qui est parti de province.
Oui.
Et qui comportait 824 juifs, dont 430 femmes. Et Maurice était, votre père, l'un des 8 déportés de nationalité grecque.
Oui.
Est-ce que c'était un handicap finalement, de ne pas parler l'allemand dans le camp quand même un petit peu.
Oui, lui-même se décrit comme un sourd et muet perdu dans un incendie. Il ne parlait ni l'allemand ni le yiddish. Il était un étranger parmi les co-détenus. Et comme c'était très vite chacun pour soi, il a dû survivre grâce à son intuition, son esprit d'à propos. Et il était souvent très isolé.
Alors, comme vous venez de le dire, il, à Auschwitz, il est immédiatement affecté, on peut dire, dans un Sonderkommando. Alors, pas exactement, il n'est pas exactement chargé de charrier de faire rentrer enfin, les déportés dans les chambres à gaz, mais de
sortir les. Enfin, d'enterrer, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de four crématoire, donc il enterre les corps dans les fosses. Et il creuse aussi, il creuse des fosses selon les jours, selon... Bon. À un moment, il dit, quand j'ai été isolé, j'ai hurlé, j'ai pleuré. Au moins un homme avait pleuré ses gens. Il se retrouve affecté justement à ce commando des fossoyeurs parce que il rencontre un jeune homme qui a du pain et du saucisson. Et il se dit, n'en comprenant rien de ce qui se passe autour de lui, voilà donc quelqu'un qui travaille dans un commando où on est nourri et peut-être moins maltraité. Et il se présente le lendemain pour en suivant ce jeune homme et au cours du chemin qui les conduit aux chambres à gaz, il voit les gens se jeter sur les barbelés, il comprend qu'il est très intrigué par cette attitude, et une fois arrivé devant une montagne de cadavres, il réalise qu'il n'a pas fait vraiment la bonne pioche.
Il travaille à Birkenau jusqu'au 4 septembre 1942, où il est envoyé ensuite au camp de travail de
Jawischowitz.
Alors, Jawischowitz, c'est...
C'est un camp qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'Auschwitz-Birkenau, qui est un camp où il y a des mines de charbon. Et il écrit que sous terre, il était plus tranquille, car les SS ne descendaient pas dans la mine. Ils n'avaient affaire qu'aux capots et aux travailleurs polonais. Ils rêvaient de ne jamais remonter à la surface. Ils enviaient les chevaux qui ne remontaient pas.
C'est l'un des plus grands de la quarantaine de camps annexes du complexe d'Auschwitz. Il y restera jusqu'à l'évacuation, jusqu'au 17 janvier 1945. J'ai envie de vous demander... D'où votre père tenait cette aptitude à la survie ? Parce qu'on peut parler d'aptitude à la survie. Extraordinaire.
Il était orphelin à l'âge de 3 mois. Il était le 8e enfant d'une fratrie de frères et de sœurs qui ont pratiquement tous été des instituteurs de l'école de l'Alliance. Devant la pauvreté de sa famille, il a... un jour décidé de faire tout pour apporter à manger à la maison. Plonger dans l'eau pour ramasser les pièces que jetaient les passagers du haut des bateaux, petit marchand de melons, distributeur de prospectus, pêcheur. Et donc il avait une certaine aptitude, déjà dès l'enfance, à se débrouiller seul. Puis il était assez fort physiquement, et je crois qu'il était exceptionnellement... fort dans sa volonté de vivre et de survivre. Je pense aussi que sa chance, c'est d'être arrivé seul au camp de sa famille. Il n'a jamais su que les autres déportés de notre famille sont arrivés au camp. On voit très bien, il raconte très bien comment les gens sombraient quand ils apprenaient le décès de leurs enfants, de leurs femmes, et qu'ils se décomposaient. Il résiste donc même aux appels au suicide que ses autres camarades l'invitent à faire. Enfin, il sait résister. Il a voulu survivre et revoir sans doute sa famille. Et il avait surtout envie de se venger. Il avait comme un devoir de survivre.
Et pourtant... c'est vrai qu'il le dit, qu'il veut se venger. Pourtant, on le sent incapable de faire mal à une mouche, si je peux dire. Il y a même une scène où il apporte sa soupe à un cuisinier polonais, je crois.
Allemand,
qui est tombé en disgrâce. Oui. Et une autre qui est extraordinaire, où il sauve un cheval qui est pris au piège dans l'effondrement d'une galerie de la mine. Et on peut dire qu'il a survécu malgré sa générosité, malgré sa bonté. Exceptionnel,
je dirais. Oui. Mais
en donnant son pain, en partageant le peu qu'il avait, en pensant toujours aux autres.
Oui, c'est exact. Et ce qui est très, très émouvant, c'est qu'il s'est donné comme devoir d'écrire cela entre 75 et 79. Et c'était très... c'était très triste de le voir écrire des heures entières ses cahiers, de les remplir sur une petite table. Et quand il commençait à lire ses souvenirs, personne ne tenait plus de 5 minutes parce que sa voix incarnait son texte. Et tout le monde partait pleurer. Moi, je ne supportais pas de le voir souffrir à ce point. Sur son texte, chaque fois que ses souvenirs le font souffrir, Il le dit, je me mords les poings, je pleure en me rappelant tout ce que j'ai vu. Il essaie de se rattraper aux branches, en évoquant son enfance, en évoquant la culture ladino, en évoquant le passé, sa mère. Et c'est ce mélange de souvenirs d'Auschwitz, du présent, des réflexions sur le présent, des réflexions éthiques sur ce qu'est le racisme, ce qu'est l'humain, et ces souvenirs d'enfance remplis de culture judéo-espagnole qui l'aident à surmonter la douleur de ses souvenirs. C'est ça qui est très particulier dans ce texte. Ce n'est pas un témoignage qui serait celui d'une caméra descriptive ou un reportage sur Auschwitz. Mmh. C'est un sujet qui, entre 75 et 79, se replonge dans ses souvenirs.
Parce qu'il n'y a pas de chronologie, vraiment.
Il
fait des allers-retours.
Il associe. Et c'est là, avec cette association d'idées, qu'il arrive à trouver des formulations exceptionnelles sur l'éthique humaine. Il a le sens des formules qui lui a été transmis par la culture ladino et les proverbes, qui, comme il dit, vite dit, longtemps médité. Et il a ce style particulier, c'est cette écriture qui est tout à fait étonnante et qui en fait un témoignage exceptionnel qui n'a rien à voir avec tout ce qui me semble a été écrit auparavant, qui essaie de simplement raconter les faits. Là, il y a le sujet qui parle.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai. Il dit que, il le dit plusieurs fois, ça revient, que d'une certaine façon, il n'est jamais sorti d'Auschwitz. Il n'est pas le seul à le dire. Je veux dire, Primo Levi, d'une certaine façon, le disait aussi. Je voudrais juste citer un passage qui est terrible, parce que on imagine on imagine ce que ça signifie de survivre, en fait, à cette expérience. Sur la plage, je vois les familles. Les gens sont nus. Ils ne m'intéressent pas, je n'ai aucun contact avec eux. Pour moi, tous ces gens sont des fantômes. Je les vois alignés, prêts à partir aux chambres à gaz. Celui-ci et celui-là se sont débarrassés des dentiers pour mieux respirer. Ces jeunes, ces sportifs, ils ont été ramassés près de la porte, croyant pouvoir l'ouvrir. Les enfants, assez, assez. Voilà, c'est un exemple. Pareil. Oui. Il est à la plage, j'imagine, avec vous, peut-être enfant. Plus grand, ou petits-enfants, oui. Je ne sais pas, mais...
Oui, c'est tout à fait cela. On voit bien comment...
Qu'il est hanté en permanence. Comme un écran entre lui et la réalité.
Quand il est rentré des camps, il ne pouvait pas s'empêcher de raconter ce qu'il avait vécu. Il pesait 35 kilos, il avait été trouvé mort. Enfin, sur un tas de morts, à peine survivant, enfin comme ça, on a attendu qu'il fasse 38 kilos pour le ramener à Paris. Et quand il rentre, quand ma mère le retrouve le 12 juin à l'hôtel Lutetia, elle a affaire à un cadavre qui raconte des horreurs. Alors, il y a eu pendant un temps très très difficile cette remise en état physique et puis cette réadaptation à la vie normale. En dehors de cette période et la période de l'écriture où il se replonge dans ses souvenirs, comme je l'ai dit précédemment, qui le font absolument souffrir et exploser de douleur, c'était un homme qui adorait la vie. Il disait qu'il faisait du rab et généreux, qui était entouré, ses amis l'appréciaient, l'adoraient. Il faisait danser tout le monde, il racontait des histoires. C'était quelqu'un dont on recherchait la compagnie. Et sa femme aussi, ma mère était une femme qui était aussi une bonne vivante, qui adorait la vie aussi et qui adorait son mari. Donc c'était des gens un peu déconcertants. Il y avait à la fois ce passage dans l'horreur et cette volonté de s'en sortir.
C'était un grand sportif aussi, votre père.
Oui, il avait été. Oui. Il a même refait du ski, il avait aimé faire du vélo. Il aimait la vie, il aimait surtout les gens. Il adorait être en compagnie des gens.
On le voit dans le camp, c'est un très bon camarade, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et il survit aussi pour eux,
pour pouvoir témoigner. Il le dit, c'est un devoir pour moi de témoigner au nom de tous ceux qui sont disparus. Et Ce sont ces réactions de sensibilité, comme ça, de subjectivité, dont il nous fait part et qu'il nous transmet. Quelqu'un m'a dit, ce livre se lit comme un roman. On le commence, on ne peut pas s'arrêter. Et d'autres m'ont dit, mais ton père, il nous conduit par la main dans le camp. Il nous aide, il nous soutient pour supporter ce qu'il nous raconte. On sent sa présence. Il nous porte avec lui.
Alors parlons un peu aussi de votre mère, puisque le livre, donc après le témoignage de votre père, enfin témoignage, on est d'accord, c'est un mot faible, le récit, le texte, on pourrait dire, au sens presque structuraliste, il y a le journal que votre mère a tenu à partir de 3 semaines après l'arrestation de votre père, donc à partir d'août 42. Elle écrit pas seulement pour elle, elle écrit aussi à son mari pour le tenir au courant de sa vie. Elle s'adresse à lui. Et c'est un témoignage aussi très important d'une femme dans la guerre, en fait, d'une femme juive dans la guerre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, alors, comme l'a écrit Annette Vievorka, le journal de Rose est un important témoignage de la vie quotidienne d'une femme juive dans la France occupée, qui permet de nourrir notre réflexion sur la survie, la façon dont est perçue la guerre et imaginer le sort des déportés. Mais je pense que d'abord, écrire lui a sûrement permis de survivre, de prendre du recul sur son quotidien et sur les dangers qu'elle a traversés et dont elle prend conscience petit à petit. Son journal est en fait et surtout un compte-rendu quotidien de la mission qu'elle s'est donnée. Elle s'adresse à son autre, à son mari absent, pour lui dédier tous ses actes. Simone de Beauvoir a écrit qu'un héros, c'est celui qui ressent la nécessité d'accomplir un acte. Et tout au long de ce journal, pour Maurice, elle en accomplit plusieurs par jour. Elle va plusieurs fois à la commandantour, voit le chef de la Gestapo, veut réclamer son retour. Elle écrit à Pétain, elle écrit au préfet, elle se doit de sauver leur fils et tout cela par amour, et tout cela parce qu'il faut que Maurice retrouve tout comme il l'a laissé. C'est assez étonnant, cette force qu'elle a et cette conviction qu'il va rentrer, cette adresse qu'elle a à l'absent tout le temps. Elle pense parfois même qu'il sait toujours. Elle dit, Maurice, j'ai fait mon ménage, tu serais contente de voir comme c'est propre. Maurice, j'ai fait ça pour toi. À un moment, elle va à Paris, elle dit, si je ne vois pas un personnage important, j'aurai l'impression de te trahir, je dois faire quelque chose pour te sortir de là. Elle va au consulat, elle sauve la marchandise qui était au Mans, défait les scellés, prend des risques incalculables et pourtant calculés parce que toujours, comme mon père, dès qu'elle a une intuition et un esprit d'à propos qui lui permettent
de flairer le danger
et de se tirer au bon moment et de partir. Elle accomplit des miracles pour son mari, écrire à Pétain, machin, tout ça, mais c'est incroyable. Elle se cache, elle aide la famille de son mari, elle veut récupérer sa marchandise. C'est étonnant. Quand on a cette lecture, on voit que ce n'est pas simplement un amour « je t'aime, tu m'aimes, on se regarde dans le blanc des yeux », c'est aussi une éthique de vie, c'est une éthique de la femme juive qui doit se consacrer à son foyer et ses enfants, comme elle a été élevée, et qui se doit de faire le maximum par amour pour les siens. C'est un texte étonnant que les gens ne pichent pas vraiment tout de suite parce qu'on se dit, bon voilà, elle se demande si elle va retrouver son mari, si elle n'a pas trop vieilli, si elle ne va pas avoir trop de cheveux blancs. Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas simplement un amour béat et bête. Hein. C'est vraiment donner du sens à sa vie, c'est son désir. Elle a l'éthique du désir.
C'est le psychanalyste qui parle, peut-être.
Oui. Oui, enfin, c'est les Spinoza aussi. Oui.
Elle reçoit une carte de lui, je crois.
Ces histoires de cartes sont très étonnantes.
C'est étonnant, ça, oui.
Alors,
racontez-nous.
Parce que les Allemands étaient très malins. Ils avaient l'intention de pouvoir continuer leur grande œuvre, leur grande mission à eux. Alors ça, ce n'est pas une mission très éthique, c'est une mission délirante d'exterminer tous les Juifs, n'est-ce pas ? Donc, avec ces cartes, ils espéraient retrouver les familles qui se planquaient.
C'est ça.
Et à un moment, ma mère reçoit une carte qui, mon père n'a absolument pas écrite. « Envoie-moi une photo et envoie-moi des colis. » Mais Maurice, je ne t'ai jamais envoyé de colis. « Mais je vais t'en envoyer, je vais t'en envoyer. » On pense qu'à la poste, on aurait attendu, parce que évidemment, une femme juive et un fils de 6 ans à l'époque, 5 ans, à arrêter et à mettre dans un camp de concentration ou à exterminer dans une chambre à gaz, c'est quand même très très important, n'est-ce pas ? C'est quand même une œuvre, une grande œuvre pour l'humanité. Hein. Alors voilà, mon père a réussi a compris qu'il pouvait peut-être donner des nouvelles à sa femme et surtout la prévenir qu'il y avait du danger. Il a écrit une carte, sur les trois cartes, elle en a reçu une, et il lui écrit comme ça, « Je vais très bien, je suis comme Edgar, son frère qui était maigre et tuberculeux, je pense, avant de partir au camp, et dont il ignore qu'il a été arrêté. Je vais très bien.
Je travaille à la mine,
et tous les nôtres sont très très heureux parce qu'ils ont retrouvé Nono. » Nono était le grand-père de mon frère, le beau-père de ma mère, et Nono était mort en 1941. Donc ma mère comprend qu'il y a beaucoup de morts. Elle ne s'imagine pas qu'il y a des chambres à gaz, bien entendu, qu'il y a une extermination massive, même à un moment où elle a risqué de se faire arrêter avec mon frère. Enfin, elle était absente et mon frère a été sauvé par une voisine. Il faut rendre ici hommage aux Justes de France qui ont sauvé les Juifs, et notamment ses voisines, ses amis, tout ce réseau d'amis qui l'ont aidé. Et elle pensait que si elle avait été arrêtée, elle aurait pu retrouver son mari. Mais elle a une petite réserve. Elle dit « Oh, ils m'auraient certainement mis dans une autre ville que toi. Ils sont tellement méchants. » Voilà.
Elle n'a jamais cessé de penser qu'elle le retrouverait. Elle a eu raison.
Je pense qu'elle s'est beaucoup désespérée quand elle a appris à la fin ce qui était le sort des déportés, mais elle veut croire, elle veut avoir cet espoir, elle a cette conviction. Elle se rend tous les jours à l'hôtel Lutetia et elle dit, on entend des récits horribles sur ce qui s'est passé, mais je veux pouvoir espérer. Elle fait des rêves, le texte finit sur un rêve où elle est ainsi... désolée, c'est bientôt l'anniversaire de mon frère, le 23 mai, ça sera bientôt l'année, deux jours avant. Et elle dit, j'arrête ce journal, je veux t'attendre, je vais espérer. Et puis le 12 juin, en effet, ils se retrouvent.
Merci Jacques Penroby. Je rappelle donc que ce livre qui a été publié aux éditions Albin Michel, Le petit arbre de Birkenau de Maurice Benroby, suivi du journal de Rose, postfacé par Annette Viverka. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.